verset dans Matthieu 19 au 45, la deuxième partie. Et il y a culte pour enfants. Hein. Excusez-moi, j'ai oublié, c'est pas si. Non. Hein. Voilà, alors c'est le Matthieu 19, 45, la deuxième partie. Il dit, c'est les apôtres qui demandent à Jésus, qui peut être sauvé? Qui peut être sauvé? C'est une question importante, n'est-ce pas? Et on sait bien que, on dit toujours que poser les bonnes questions, c'est la meilleure façon de trouver la réponse. Qui peut être sauvé? Aujourd'hui, il y a beaucoup de questions qui sont, même dans le milieu, entre guillemets, des chrétiens. Oui, je parle en langue, oui, c'est le Saint-Esprit, il est avec moi. Je fais ça, je fais ces œuvres-là. Mais la bonne question, c'est de savoir qui. Ils l'ont demandé, qui peut être sauvé? Et ça, ce n'est pas seulement une question que les disciples se sont posées à cette époque-là, mais déjà dans l'Ancien Testament. Les gens, ils s'est posé cette question, parce que là aussi, il y avait une prolifération de croyances. Et alors, David, dans les psaumes 15, que c'est ces psaumes-là que nous allons voir aujourd'hui. David aussi, à cette époque-là, il s'est posé cette question. Et il a dit au verset 1, « L'Éternel, qui séjournera dans ta tente ?» Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est une question très importante. Très importante. La question, il nous semble un peu étrange pour nous. Mais est-ce que nous nous sommes posés cette question en regardant notre propre vie? Parce que des fois, on s'est fait des illusions. J'ai fait des bonnes œuvres à droite et à gauche, donc je suis sauvé. Dieu, il est content de moi. Je parle en langue, je prophétise, voilà, donc je suis sauvé. Mais qui, Éternel, qui séjournera dans ta tente, sur ta montagne sainte, hein? Vous savez, Dieu, il avait donné à Moïse l'ordre de construire une tente spéciale. Pourquoi il a donné cet ordre-là? Parce qu'il voulait habiter parmi son peuple. Il voulait demeurer parmi son peuple. Hein? Et l'endroit choisi par Dieu, c'était justement cette tente-là. Par la suite, Salomon a construit un temple. Et c'était là, c'était l'endroit que Dieu avait choisi. Donc, nous ne sommes pas aujourd'hui, nous n'avons pas cet endroit, le temple, pour aller adorer Dieu. Mais nous pouvons le faire partout. Et vous savez, ici, lorsqu'on vient à l'église pour adorer Dieu, on dit pour louer et adorer Dieu. Nous venons dans l'église, mais nous y restons une heure. Une heure et demie. Si ça dure plus longtemps, on va dire, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Il s'arrête ou pas? Et ensuite, on rentre à la maison. Mais la pensée de David, c'était demeurer. Demeurer dans la maison. C'est-à-dire pas un moment, mais y rester. Qui peut rentrer dans la présence de Dieu? Et c'est ça la question qu'il faut résoudre. Et en tant que chrétien, comme il disait David dans les psaumes 84, il dit « Combien tes demeures me sont chères. Mieux vivre un jour dans tes parvis que mille ailleurs. » Est-ce que nous avons cette pensée que David avait? Nous nous limitons seulement à venir les jours que l'Église il organise, mais ce que David ici il dit, c'est de demeurer pas d'y passer quelque temps. Et ici, il nous est dit la question pour ce père David, il souligne la demeure, mon habitation. Hein? Remarquez ici dans les versets, il nous dit, c'est sa tente, c'est la tente de Dieu, c'est son habitation, c'est Dieu qui est le propriétaire. Et donc, automatiquement, pour entrer dans la présence de Dieu en tant que propriétaire, c'est lui qui décide qui doit rentrer et comment y rentrer. Parce que c'est sa propriété, c'est sa maison, c'est lui qui décide. C'est un peu comme le salut, vous savez. Il y a des gens qui disent, oh, il faut faire ça et ça et ça, il faut dire ça et ça et ça. Non, Dieu, il a établi le moyen et la façon de rentrer et avoir part à toutes ces choses-là. Et ici, dans les psaumes 15, comme je vous ai dit, il nous montre exactement quelles sont les modalités pour rentrer dans la présence de Dieu. Et encore une fois, c'est Dieu qui les établit. C'est un peu comme ici en France, vous savez, il y a un étranger qui vient, le gouvernement français, il te dit, voilà, tu veux venir ici, mais voilà, ici, on doit faire ça, 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 ça. Pourquoi? Parce que c'est le gouvernement français, c'est lui qui a décidé. Tu veux prendre part à cela, tu dois observer ces choses. Et Dieu, il nous dit, tu veux rentrer dans ma présence? Tu dois faire ça, ça et ça. Lisons ces modalités que Dieu il a établies. Il y en a dix, mais lisons le premier verset de 1 jusqu'à 5. Lisons tous les psaumes. Il dit, ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, il ne jette point d'opprobre sur son prochain, il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel, il ne se rétracte point, il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne s'enchaînera jamais. Et ici, justement, il nous montre comment rentrer. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait que les prêtres qui rentraient devant la présence de Dieu. Les autres étaient exclus. Mais ici, le Seigneur, il nous montre des modalités par lesquelles on peut rentrer dans la présence de Dieu et y demeurer. Parce qu'ici, David se pose la question, qui demeurera? Pas y rester seulement un temps. Et justement, la réponse, il nous la donne. Alors, qui demeurera dans la montagne? Premièrement, il y en a dix. Hein? Premièrement, c'est celui qui marche dans l'intégrité. Intégrité, il signifie être sans reproche, droit. Il faut être sans reproche, il faut être droit. Qui dit sans reproche, c'est aucun péché. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu, il n'accepte pas que quelqu'un, il ait dans son cœur des péchés. Voilà pourquoi c'est lui qui marche dans l'intégrité. Beaucoup disent, hein, c'est une bonne personne, mais elle néglige sa famille. Ce n'est pas marcher dans l'intégrité, ça. D'autres qui disent, c'est un bon gars, mais il est paresseux. Ce n'est pas l'intégrité, ça. Hein? Et ce que le Seigneur, il demande, c'est l'intégrité, sans reproche. Si nous sommes intègres sans reproche, ça c'est la première façon de rentrer dans la maison et de demeurer. Le deuxième, il nous est dit, c'est lui qui pratique la justice. C'est lui qui pratique la justice, c'est-à-dire qu'il est honnête et droit. honnête et droit. Le sommes-nous? Beaucoup de chrétiens, ils disent, oh oui, je n'ai pas fait cette déclaration, je ne le déclare pas. Ça, ce n'est pas être honnête. Ce n'est pas être droit. Cacher les choses, ce n'est pas être honnête. Et ici, le Seigneur, il est clair. Hein? Il faut qu'il pratique la justice, qu'il soit honnête, qu'il soit droit. Troisièmement, il dit la vérité selon son cœur. Pour dire la vérité selon son cœur, il faut déjà avoir la vérité dans le cœur. Parce qu'on l'a chanté, hein? Il dit « Mon cœur est tortueux ». Ben oui. Qui peut dire la vérité selon son cœur? C'est lui qui a la vérité dans son cœur. C'est lui qui a Jésus dans son cœur. Quatrièmement, c'est celui qui ne calomnie pas avec sa langue. C'est lui qui ne calomnie pas selon, qu'il ne dit pas mal des autres, des frères et sœurs, de ceux qui nous entourent. Un peu comme les pharisiens. Il a dit, voilà, moi je donne la dîme, j'ai fait ça et ça et ça. Je ne suis pas comme celui-là. Il s'est justifié devant Dieu. Et il dit, c'est lui qui ne calomnie pas, qui ne casse pas la réputation de celui qui est à côté. Cinquièmement, il nous a dit qu'il ne fait pas mal au prochain. Qu'il ne fait pas mal au prochain. Il ne fait rien pour offenser les autres, pour apporter de la souffrance, de la tristesse dans la vie de l'autre. Pas seulement frères et sœurs, mais notre prochain aussi. Parce que Jésus, il est venu apporter l'amour et la grâce pour tous, pas pour une certaine catégorie de personnes. Sixièmement, il ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Il ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Il ne se moque pas de son entourage. Il ne se moque pas de son entourage. Il ne rabaisse pas les autres. Regarde celui-là. Il ne vient jamais à l'église. Il ne rabaisse pas les autres. Septièmement, il repousse ce qui est méprisable à ses yeux. Mais il honore ceux qui craignent le Seigneur. Il ne fait pas l'éloge d'une vedette de cinéma. Il ne regarde pas un idole, chanson ou je ne sais pas quoi, et le prend pour l'imiter. Non. Il faut encore une fois être droit. Car chaque fois que nous regardons ailleurs qu'envers Dieu, chaque fois nous tombons dans les péchés. C'est lui qui repousse et méprisable à ses yeux. Aux yeux de qui? Aux yeux de Dieu. Jésus, il nous a dit, celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. On peut être comme on est. D'ailleurs, il nous a dit, tel que je suis, je viens à toi, n'est-ce pas? Que je sois pauvre, que je sois riche, que je suis malade, que je suis estropié. Il faut se présenter devant lui comme on est et pas mépriser. Et il continue, huitième, c'est lui, il ne se rétracte pas. Lorsqu'on dit quelque chose, il faut la faire. On ne fait pas des promesses sans le tenir. Il ne se rétracte pas lorsqu'il fait un serment. Lorsque nous nous engageons, nous devons aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Neuvième, il ne prête pas son argent à intérêt. Il ne prête pas son argent à intérêt. Le Seigneur, celui qui prête, il lui a donné la possibilité et la grâce de prêter un frère et une sœur qui est dans le besoin. Il faut lui prêter s'il est dans la possibilité. Sans demander une ristourne. Mais il faut que celui qui reçoit, qu'il se souvienne qu'il faut rembourser. Parce que prêter, ce n'est pas donner. Voilà ce que Dieu il nous dit. Et dixièmement, il n'accepte pas des présents contre l'innocent. Nous devons être encore une fois réglos. Ce que nous devons dire, nous le disons, sans se dire... Tiens, peut-être si tu me donnes ça. Voilà, c'est des magouilles dans lesquelles on ne doit pas rentrer. Satan, il a essayé de faire ça avec Jésus. Si tu m'adores, je te donne. Ah, aucune magouille avec moi. Nous devons être exactement pareils. Et voilà pourquoi David se pose cette question. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Seulement... ceux qui possèdent toutes ces qualités. Et ça veut dire quoi, posséder toutes ces qualités? C'est être dans le même temps de Dieu. Et vous savez, hein, dans les psaumes 5, 4, il nous est dit, « Le mal ne séjournera pas auprès de toi. » C'est-à-dire que si on a quelque chose de mal dans notre cœur, éloignons de nous cette idée d'être dans la maison de Dieu. On ne peut pas. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu est propre. Il ne veut pas de la saleté. Voilà pourquoi, comme on dit toujours le vendredi dans nos réunions de prière, hein, on doit s'approcher du trône de la grâce et déposer aux pieds du Seigneur tous nos fardeaux qui sont trop lourds. C'est pour ça que nous prions le Seigneur. Mais avant de nous approcher de ce trône de la grâce, nous devons nous approcher du trône du jugement. Pourquoi du jugement? Parce qu'on ne s'approche pas de Dieu si on a quelque chose dans notre cœur qui n'est pas selon sa volonté. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Parce que Dieu est saint. Oui, ces psaumes-là, c'est un psaume écrasant pour chacun de nous. Pour moi, le premier, et sûrement pour vous aussi, il l'est. Parce que si on regarde toute cette modalité que Dieu il demande, si on est honnête, on doit dire, j'y réponds pas à toutes. Hein? J'y réponds pas à toutes. Hein? Pourquoi? Parce que nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. Et qui a les droits de vivre dans la présence de Dieu? Qui a le droit de demeurer dans la présence de Dieu? En tant que pécheurs, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Hein? Dans les psaumes 14, il nous est dit, « Tous sont égarés, ensemble ils sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien. » Vous vous rendez compte de ce qu'il nous dit ce verset? Il n'y en a aucun, aucun. Et vous entendez aujourd'hui, « Ah, ben moi, je ne suis pas comme lui. Hein. Moi, je ne vole pas, je ne trompe pas ma femme, je ne convoite pas, je vis ma vie tranquillement, j'aime tout le monde. » Et la Bible te dit, « Non, mon ami, tu es pécheur. » Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Mais alors, on peut se poser la question, est-ce que personne n'habitera dans la maison de l'Éternel? Et c'est là qu'il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Et ce psaume, il est réconfortant parce qu'il nous parle. De qui il nous parle? Mais il nous parle de Jésus. Vous me direz, mais où est-ce qu'il est Jésus? Aldo, tu es en train de le bloquer. Où est-ce qu'il est Jésus? Mais vous savez, dans les dix critères pour être administré, pour être admis dans la présence de Dieu, on voit Jésus. Changer les pronoms personnels « il » avec Jésus, et vous verrez. Qui rentre? Premièrement, Jésus est celui qui marche dans l'intégrité. Il y a l'espoir. Jésus, c'est celui qui pratique la justice. Jésus, c'est celui qui dit la vérité dans son cœur. Jésus, il ne calomnie pas de sa langue. Jésus ne fait de mal à son prochain. Jésus ne jette pas le déshonneur sur ses proches. Jésus repousse celui qui est méprisable à ses yeux. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Ceux qui n'appartiennent pas à Dieu, Jésus leur disait, sépulcre blanchi, hypocrite. Mais bien sûr, Jésus il pouvait le dire, hein, mais pas nous. Et huitièmement, Jésus, c'est celui qui ne se rétracte pas. Celui qui croit à moi a la vie éternelle. Et il nous est dit encore, Jésus est celui qui n'accepte pas de présent. On voit Jésus, il y a un espoir. Qui peut nous faire entrer dans la présence de Dieu? Mais il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que lui. Voilà pourquoi nous avons cet espoir. Pourquoi Jésus? Parce que c'est exactement Jésus qui nous est dépeint ici. Qu'est-ce qui lui est arrivé après la mort de Jésus? Son Père, il l'a ressuscité, il l'a fait monter au ciel, il est rentré dans la présence de Dieu. Et tous ceux qui ont Jésus dans leur cœur, ils vont suivre le même cheminement. C'est lui qui nous fait rentrer dans la présence de Dieu. Et vous savez, c'est ça la merveilleuse nouvelle de l'Évangile. Dans l'Évangile, on trouve cette merveilleuse nouvelle. Hein? Et ça veut dire que dans cette nouvelle, il y a deux choses. Premièrement, il y a le réconfort et l'appel. C'est deux choses, réconfort et appel. Nous avons un grand réconfort de dire « Je veux vivre avec Dieu ». Ben oui. Et ça, c'est réconfortant pour notre âme. Lorsqu'on dit les gens, ils n'ont aucun avenir, aucun espoir. Nous, en tant que chrétiens, nous pouvons dire « Après ma mort, je vais au ciel ». Et cela me réconforte. Je n'ai pas peur de la mort. Parce que je sais qu'après la mort, il y a la vie. Si j'ai Jésus dans ma vie, parce que je veux suivre le même chemin que Jésus a fait. Et Dieu, une fois qu'il a ressuscité, il a accueilli les bras ouverts. Et où est-ce qu'il est maintenant Jésus? Il est assis dans la présence de Dieu. Il est même assis à la droite de Dieu. Et c'est là que nous serons. Pourquoi Dieu, il ne désire pas voir nos péchés. Et la seule façon pour cela, c'est que Jésus, il nous accompagne. Car Dieu, il ne regarde pas moi personnellement, mais il regarde Jésus. Car c'est lui qui a tout fait pour moi. Voilà pourquoi qu'en tant que chrétiens, nous ne devons jamais arrêter de glorifier ces grands sauveurs. J'espère que nous le faisons constamment, pas de temps en temps, car on se souvient, on doit se souvenir de celui qui nous a sauvés. Moi, j'étais transplanté du foie, je ne connais pas celui qui m'a donné son foie. Mais j'ai prié pour cette personne-là, qu'il soit auprès de Dieu. Après, bon, c'est lui qui a fait sa vie. Hein? Et c'est exactement la même chose que nous devons faire. Jésus, c'est celui qui nous a sauvés. Donc, nous devons constamment prier pour lui. Pourquoi? Parce que Jésus, il a vécu, et il a vécu tout ce que nous méritions. Qui méritait les châtiments? C'était moi. C'était pas Jésus. Pilate même, il l'a reconnu. Il est innocent. Sa femme, il a dit, ne te mêle pas de cet homme-là. Parce que cette nuit, je ne suis pas arrivé à dormir là. Voilà pourquoi il a dit, que voulez-vous que je lui fasse? Que voulez-vous faire? Alors il lui a proposé un voleur, un assassin, Barabbas. Et il dit, ben, au moins comme ça, ils vont le délivrer. Qui voulez-vous que je vous le délivre? Jésus ou Barabbas? Ah, Barabbas, Barabbas. Voilà. Il a pris la place des coupables. Car moi, aux yeux de Dieu, j'étais coupable, j'étais condamné, j'étais même jugé. Mais grâce par Jésus-Christ, je peux dire, nous pouvons dire aujourd'hui que nous avons la vie grâce et par Jésus-Christ. Hein? Et c'est un réconfort pour chacun de nous. Mais le résultat de ce réconfort, c'est que nous devons vivre une vie agréable à Dieu. Nous devons être saints. Nous devons manifester autour de nous la sainteté, afin que ceux qui nous voient, ils peuvent vous dire que nous appartenons à Jésus-Christ. Nous devons nous distinguer. Nous devons nous distinguer. Pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens. Parce que nous avons Jésus-Christ dans notre vie. À ceci, il nous est dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous mettez en pratique ce que je vous ai enseigné. Et nous savons que même là, nous ne sommes pas très crédibles. Tout à l'heure, on a chanté ce cantique, pardon. Quand on pense qu'il y a dans toutes les églises, pas seulement ici, hein, qu'il y a des gens qui ne se disent pas bonjour. Eh oui, ils s'évitent. Où il est le pardon là? Et pourtant Dieu, il a pardonné des êtres comme nous, qui ne méritaient rien. Pardonnez-vous comme moi. Je vous ai pardonné. C'est pas parce que je veux pardonner, mais parce que Dieu il m'a pardonné, alors je pardonne. Je pardonne. Hein? Et comme je vous ai dit, il y a deux choses. Il y a le réconfort et il y a aussi l'appel. Le réconfort, nous sommes sauvés, mais il y a aussi l'appel. Appel à faire quoi? Mais à propager l'Évangile. À dire les choses qu'il y a dans la Bible. Cet homme qui avait été guéri, il était bien avec Jésus. Ah oui, on est bien. Il a dit, permets-moi que je reste avec toi. Et Jésus, il a dit, non, 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 rentre chez toi. Et tu dis à ta famille ce que le Seigneur il a fait pour toi. Et il est prêt à le faire pour les autres. Ce matin, les frères, il nous a dit, pour Paul, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. À ce moment-là, il n'y avait que le geôlier qui a sauvé. Mais dans la réunion qu'il y a eu, il a réuni toute sa famille. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ, ils sont sauvés. C'est cet appel-là. Où Pierre, Jacques, Jean, il nous a parlé de Pierre aussi. Il nous a montré que c'était un grand homme, hein. Mais une fois qu'il a reçu le Saint-Esprit, parce qu'avant, lorsqu'il est monté sur la montagne Tabor, il a vu la glorification de Jésus-Christ, et il était bien, ah, je suis bien ici, Seigneur. Ils étaient trois. Jésus, il lui a parlé avec Moïse et Élie. Il a dit, ah, c'est bien, Seigneur. On va construire trois tentes, un pour toi, un Moïse. Voilà. Lorsqu'il a dit ça, tout a disparu. Et il n'y a que Jésus qui est resté. Il n'y a que Jésus qui doit être devant nos yeux. Et il n'y a que lui. Et c'est cet appel-là que nous devons propager autour de nous. Car nous avons été sauvés pour servir le Seigneur. Voilà ce que le Seigneur il nous dit. Hein? Et dans ce psaume 15, il y a la question éternelle, qui demeurera? Il y a la réponse, qui demeurera dans la présence de Dieu? Mais tous ceux qui ont Jésus dans leur cœur, qui suivent Jésus. Mais il n'y a pas seulement ça, mais il y a aussi la promesse. Quelle est la promesse? Mais il nous est dit au verset 16, c'est lui qui s'est conduit ainsi ne chancelle jamais. C'est vrai, on a Jésus. On ne chancellera jamais. Je ne dis pas que les chrétiens ne chancellent pas. Ah oui, ils chancellent. Mais il y a toujours Jésus qui les relève. Chose qui n'arrive pas aux autres. Ils ne trouvent personne. Mais Jésus, il est constamment là. Il est prêt pour nous donner tout ce dont nous avons besoin. Et voilà pourquoi il nous a dit, ils ne chancelleront pas. Et Jésus, il nous a donné l'exemple. Il a vécu une vie selon la volonté de Dieu. Il a mis en pratique tout ce que Dieu lui disait. Et il a été reçu. Il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux qu'il s'est présenté devant le Père. Il a présenté l'Église. Tous ceux que tu m'as donnés, je les ai sauvés. Tous ceux que tu m'as donnés, ils exécutent ma parole. Et c'est exactement ce qui nous va arriver. Nos vies, peut-être, elles seront ébranlées. Nous serons dans la tristesse, dans la souffrance, dans le besoin. Mais sachant que Jésus est là. C'est ça le grand réconfort que nous avons. Et pour terminer, je vais vous lire d'Apocalypse 21. Voilà une grande promesse. Et il nous est dit, verset 2, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu, ou la tente de Dieu, avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses seront disparus. » Ça, c'est l'accomplissement de ce psaume 15. C'est exactement l'accomplissement parfait. Nous vivrons dans la merveilleuse présence de Dieu. Car il nous le dit, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Qui c'est la nouvelle Jérusalem, la ville sainte? Mais c'est nous. C'est nous. Prête comme une épouse. Qui c'est qui va épouser Jésus-Christ? Mais c'est nous. L'Église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Nous avons été préparés. Jésus, il va présenter son épouse au Père, pure, sans tache. Et c'est alors qu'il y aura les noces de l'agneau dans le ciel. Et il dit, il entendit du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu, l'habitation de Dieu. Qui c'est l'habitation de Dieu? Mais c'est nous. J'habiterai en lui. Jésus-Christ, il est en nous. Nous sommes l'habitation de Dieu. Il habite en nous. Et il dit, voici l'habitation de Dieu. La tente avec les hommes. Eh oui, Jean 1:1. Et la parole a été faite chair. Et il a habité parmi nous. Et il disait, ils seront son peuple. Mais nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Et Dieu lui-même, il sera avec eux. Dieu, il est avec nous. Il est en nous, pas seulement avec nous, mais il est en nous. Voilà pourquoi Paul, il dit, ne mélangez pas les choses. Quelle est la relation entre toi et un incroyant? Il n'y en a pas. Dans le monde aujourd'hui, si tu es chrétien, pourquoi tu vas te mêler à ceux qui n'ont pas Christ dans leur cœur? Dans ce monde de séduction, des sexes qu'il y a aujourd'hui, pourquoi se mêler avec une autre femme? Chaque fois qu'on le fait, nous ne donnons pas honneur, parce que nous sommes le temple de Dieu. Tout ce qui doit rentrer, tout ce que nous devons fréquenter, c'est des gens qui ont la même croyance que nous. Bien sûr, nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde pourquoi? Pour propager cette nouvelle. Car aujourd'hui, Jésus est parti. Les apôtres sont partis. Mais il nous a donné le Saint-Esprit. Et il l'a mis à nous. Et nous devons aller. C'est nous qui devons faire ça. Et nous devons apporter la bonne nouvelle au monde. Mais une fois qu'on a annoncé la bonne nouvelle, il faut sortir du monde. Ne pas rester dans le monde. Mais aujourd'hui, nous nous plaisons tellement dans ce monde. On sait que le Seigneur Jésus peut venir à n'importe quelle heure. Et des fois, des gens disent, les chrétiens même, « Ah Seigneur, je sais que tu dois revenir, mais attends encore un peu. J'ai encore des choses à faire. Mes enfants et tout ça. » C'est à n'importe quelle heure, le Seigneur peut. Même maintenant. Mais la question c'est, est-ce que sommes prêts à recevoir? Comment est-ce qu'il est notre cœur? Est-ce que si le Seigneur il vient maintenant, nous pouvons dire que nous allons habiter dans les tabernacles de Dieu? Nous allons demeurer dans la présence de Dieu? Voilà. Et à cette question, bon, il n'y a que nous qui pouvons répondre. Chacun de nous. Donc, examine-nous fortement. Et si voyons qu'une de ces modalités, il ne s'y trouve pas, il faut y remédier. Car si nous n'avons pas toutes ces modalités, nous ne demeurerons pas dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint. Dieu, il ne tolère aucun péché. Aucun. Et pour Dieu, comme je dis toujours, il y a péché. Il n'y a pas de petits péchés, péchés mignons, péchés mortels, péchés véniels. Devant Dieu, il y a péché. Qu'est-ce que c'est le péché? C'est la transgression de la loi de Dieu. Voilà ce que le Seigneur lui demande. Alors, sommes-nous sûrs de demeurer dans l'attente de l'Éternel? À chacun de nous de réfléchir. Amen. Amen.